Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes sur Radio Pirate ce soir en compagnie de Sarah et moi-même, Ellie. J'espère que vous avez apprécié cette longue musique d'attente. C'était une chanson de Jeryl Roll Morton qui vient de tomber dans le domaine public. Nous allons parler ce soir et pour la deuxième semaine de suite de musique en ma compagnie du coup pour la seconde fois. Donc pas d'un homme cette fois, mais d'une femme comme vous pouvez le lire. On va parler de notre modèle de réussite français, celle qui nous donne de la bonne humeur, qui nous fait vibrer tout l'été. Je parle bien sûr d'Aya Nakamura. Donc je tiens tout de même à vous préciser, comme la semaine dernière, d'où je parle, donc ma position sociale, et je suis toujours blanche.
Oui, bonsoir, c'est Sarah. Merci de nous écouter ce soir. Et comme Ellie, je vous précise que je suis également blanche.
Nous allons donc analyser l'album d'Aya Nakamura qui se nomme Aya. Mais ce soir, c'est pas comme tous les soirs. Ce soir, c'est exceptionnel. Parce que nous avons besoin de votre avis, nous avons besoin de vous. Ce soir, c'est une libre antenne. Donc, je vais envoyer un message dans le chat et n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou un modérateur sur Twitch ou sur YouTube pour que vous vous joigniez à nous au moment où on va passer, un moment d'échange. Donc, n'hésitez pas à passer l'abordage après cette courte pause musicale. À tout de suite. Nous revoici Moussaillon et Moussaïen. Pour cette première partie, je ne fais qu'introduire Sarah, qui va vous présenter du coup Aya Nakamura. Sa réception médiatique est aussi très importante pour comprendre, c'est un élément très important pour comprendre comment Aya s'insère dans le débat médiatique en France, qui est le concept de misogyne noire.
Oui, exactement. Du coup, voilà, pour la présenter rapidement, parce que je pense qu'on la connaît quand même bien, Aya Nakamura, c'est une artiste française, une des artistes françaises qui vend le plus. C'est l'artiste féminine française qui est la plus écoutée à l'international. Elle a sorti son premier son sur les réseaux sociaux à 19 ans et elle a vite connu le succès avec quelques titres en duo qui sont par la suite sortis sur YouTube. Et en 2016, elle signe chez la Warner. Elle a à son actif 3 albums. Les deux premiers, Journal Intime, sont sortis en 2017 et Nakamura, sorti l'année suivante. Son disque de platine, et on peut dire qu'une semaine après sa sortie, le troisième album, donc Aya, s'est écoulé à plus de 21 000 exemplaires en France, ce qui l'a classé numéro 2 du top album, et il est maintenant certifié disque d'or. Donc voilà, Aya Nakamura, c'est une artiste de premier plan avec un large public. Pourtant, on va voir que la couverture médiatique dont elle bénéficie, elle est assez réduite. Maintenant, ça change un peu avec ce troisième album dont elle a fait pas mal de promos. Mais globalement, les médias ne parlent pas beaucoup de sa musique. Avant la sortie de cet album, elle avait fait qu'une seule couverture de magazine féminin, par exemple. Donc voilà, elle ne bénéficie pas non plus d'une couverture médiatique à la hauteur de ce qu'elle représente. Et on peut dire aussi qu'elle a une sorte de mauvaise réputation vis-à-vis des médias, car elle refuse pas mal d'interviews, voilà. Comme l'illustre l'épisode notamment chez Quotidien. Pour vous rappeler rapidement, elle ne s'est pas rendue sur le plateau de l'émission Quotidien où elle était invitée pour faire la promo de son troisième album, ce qui a créé une petite polémique et derrière, on s'est pas mal moqué d'elle. Elle est assez attaquée sur les réseaux sociaux et globalement dans les médias. Ce qui revient souvent, c'est qu'on trouve qu'elle a mauvais caractère, que ce n'est pas une bonne cliente pour les médias. Donc, les journalistes n'hésitent pas à l'attaquer, à se moquer d'elle, etc. Sa parole est aussi... réduite en fait à des sautes d'humeur ou des caprices de diva. On n'écoute pas vraiment ce qu'elle a à dire. En plus de cette couleur.
Si je pouvais me permettre, excuse-moi Sarah, si je peux me permettre, l'épisode du quotidien, je viens de m'en souvenir, c'est qu'elle avait prévenu l'émission à 18h le soir d'avant et que l'émission a fait comme si on lui avait posé un lapin alors qu'elle avait prévenu à l'avance. Et du coup, c'est clairement une espèce de vengeance qui lui est affichée. Alors qu'elle avait prévenu littéralement pour une émission qui était en plus à 8h le lendemain. Quoi. Elle était enregistrée le lendemain très tôt.
Oui, exactement. Ça a été une espèce de mise en scène derrière où ils ont expliqué qu'elle n'était pas venue parce qu'elle avait eu la flemme, je sais pas quoi. Enfin, bon. C'était un peu limite de leur part. Et on peut dire aussi qu'en plus de cette couverture médiatique qui est quand même assez majoritairement agressive, elle dénonce aussi le racisme en fait, qu'elle subit de la part des médias et du grand public. Par exemple, dans l'émission Click, elle a déclaré qu'un directeur artistique lui aurait conseillé de se faire blanchir la peau ou d'utiliser un fond de teint plus clair pour toucher un plus large public. Et on a aussi plusieurs exemples d'imitations racistes, notamment dans les grosses têtes d'RMC, etc., sur lesquelles on ne va pas particulièrement revenir. Mais voilà, elle est assez fréquemment attaquée. Elle est aussi visée par des insultes assez fréquemment sur son physique. Notamment des insultes qui disent qu'elle serait laide, qu'elle serait masculine. Par exemple, après la publication d'une photo d'elle sans maquillage, elle a été comparée par des internautes à un footballeur, à un mec de cité, etc. Et donc, cette sorte d'accusation d'être masculine, c'est une composante de ce concept de misogynie noire dont on voulait vous parler, comme par exemple explique Kiemis sur son blog. Kiemis s'était invitée sur Radio Pirate pour l'émission de la semaine dernière sur la poésie révolutionnaire. C'est une poétesse et elle anime aussi un blog afroféministe. Et donc, j'ai pris sa définition de la misogynie noire pour vous l'expliquer. C'est une forme de sexisme et de misogynie qui est dirigée contre les femmes noires et dont, par exemple, les critiques sur le physique, en fait, sont une partie intégrante. Kiemis, elle explique notamment, et là, je la cite, que l'exclusion des femmes noires de la vision occidentale et masculine du genre féminin au moment de la colonisation se perpétue dans certaines pratiques aujourd'hui. Et en fait, c'est cette vision néocoloniale qui nourrit la misogynie noire et que l'on retrouve dans ces insultes qui sont dirigées contre Aya. Donc, les femmes noires sont dénigrées, vues comme plus masculines et ne correspondant pas au carcan en fait, de la féminité blanche occidentale qui est valorisée. Et Aya, elle dénonce ces attaques sexistes et racistes qu'elle subit. Elle a déclaré notamment « Je pense que la France n'est pas habituée à voir une fille à la peau noire chanter, s'aimer, faire la belle et s'assumer totalement. » Et à ce propos, la chanteuse malienne Oumou Sangaré a aussi déclaré à propos d'Aya que la manière dont elle s'est fait un nom dans le monde, dans un monde dominé par les hommes, est une source d'inspiration pour tant de jeunes filles. C'est une étoile pour beaucoup de jeunes et les étoiles dérangent toujours quelques personnes. Donc voilà, je trouvais que cette citation était assez révélatrice en fait de cette image d'Aya Nakamura.
Donc sur ce point, je finirai donc en vous conseillant évidemment de lire Kiemis qui parle de ces questions puisque nous ne sommes pas concernés, nos propos sont bien moins pertinents que les personnes concernées, ainsi que le blog de Mrs. Roots qui parle évidemment et également de misogynie noire. Je vous mets le lien dans le chat. C'est sur petite pause que nous allons quitter sur une pause musicale qui va être pour calmer les rageux du classique, de la musique classique qui est aussi dans le droit public, heureusement. Et je vous rappelle que ce soir, c'est une libre antenne, donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Twitch pour pouvoir avoir accès au Discord et pouvoir rejoindre cette libre antenne pour donner votre avis. Donc à tout de suite après cette petite pause musicale qui va être plutôt longue.
Every day, I'd like to love you, love you. I'd like to love you, love you. If I may, if I may, I'd like to love you, love you. I'd like to love you, love you. I'd like to love you night and day. If I may, may, may. I'd like to. I'd like to love you every day.
Nous revoici, chers pirates, encore une fois. Donc, on vient de vous présenter Aya Nakamura, mais on n'a pas encore parlé de sa musique. Pas de stress, on va bientôt s'y attarder, mais pour comprendre en fait Aya Nakamura, pour moi et pas que pour moi, du coup, au moment où on a construit cette émission, on s'est rendu compte en fait qu'il fallait parler de ses influences et de son origine.
Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut dire sur la musique d'Aya Nakamura, c'est qu'elle mélange beaucoup d'influences justement, et voilà. Sa musique, elle est faite pour danser, et du coup, elle mélange des sonorités hip-hop, R&B, des rythmiques latino, caribéennes, de l'afrobeat, la trap, du zouk. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et par exemple, Isaac Villa, qui a fait la prod de Jolie Nana. Explique que son identité sonore, elle tire vers le zouk, mais également vers le latino. Et il raconte que pour Jolie Nana, ils ont d'abord cherché l'harmonie qui conviendrait à sa voix et qu'ils ont ensuite rajouté un côté caribéen dans les percussions pour coller à son univers. Et de la même manière, les beatmakers sur Pookie, qui sont le collectif Le Side, ils expliquent aussi, par exemple, qu'ils ont rajouté des percussions pour faire bouger et que pour cela, ils sont inspirés pour les basses du dancehall jamaïcain. Donc voilà, avec Aya, on a une musique qui bouge, qui est assez influencée par des sonorités afro-caribéennes et latino. Et je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça explique sans doute son succès à l'international aussi, parce que ce sont des influences qu'on retrouve dans le hip-hop contemporain aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Et c'est une musique qui est assez actuelle finalement.
Alors, du coup, on en arrive enfin à l'album. On en arrive enfin à Aya Nakamura. Mais on va encore faire durer un petit peu le suspense de notre humble analyse. On va un peu parler là de qu'est-ce qu'on a apprécié dans cet album, parce que je pense qu'il nous a un peu marqué de manière très différente en fonction de notre écoute. Moi, personnellement, je ne l'ai pas aimé à la première écoute. Je l'ai aimé après, en fait, en réécoutant, et en travaillant, en fait, sur cette émission. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le travail qu'il y avait sur le texte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, par exemple, Jolie Nana, je l'ai réécouté. Je peux encore l'écouter, en fait, je l'ai écouté tout l'été. Et j'ai beaucoup aimé aussi... J'ai beaucoup aimé aussi Doudou et Bif. Et l'introduction à l'album m'a aussi beaucoup marqué. Parce que la première phrase de l'album, elle est assez étonnante pour un album qui parle d'amour. Bah, du coup, j'ai envie de demander à Missa, qui nous a rejoint pendant la pause musicale de tout à l'heure, qu'est-ce que toi, t'en as pensé de l'album, Missa ?
Salut les pirates. Alors moi, j'ai beaucoup écouté son premier album. J'avais beaucoup de coups de cœur dans, enfin pour moi en fait son premier album, l'album d'avant qui était Nakamura. L'album Nakamura, je trouvais qu'il y avait énormément de tubes à l'intérieur et je me suis dit waouh, ça va être difficile de faire aussi bien en fait. Et puis autant qu'il y avait des choses qui étaient des tubes du genre Pookie etc et des chansons qui étaient moins connues mais que j'appréciais vraiment comme Idiot par exemple. Dont j'ai adoré l'instru et tout. Et là, donc quand Jolie Nana est sortie, j'ai pas tout de suite apprécié. Et en écoutant plusieurs fois, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, quand elle a sorti Doudou, et j'étais tellement hypée parce que je la trouve incroyable, autant sur l'instru que sur l'ambiance. Enfin, je trouve qu'il y a une ambiance de fou dans cette musique. Vraiment un peu l'ambiance, enfin il y a un truc un peu suave et tout que j'adore et même le clip, je trouvais que j'avais pas trop aimé les clips qu'elle avait sortis avant et du coup Doudou, je trouvais que c'était un peu une nouvelle esthétique que j'ai beaucoup appréciée. Et après sur l'album, je suis un peu mitigée sur certaines chansons. Mais moi, j'ai donc il y a Doudou évidemment que j'arrête pas d'écouter en boucle, que j'ai vraiment adoré. Et après il y a Fly que j'ai trouvé. Tu fly vraiment avec elle quoi. Elle est assez communicative, je trouve Aya dans ses chansons. Et donc Fly, tu sens vraiment qu'elle est à fond quoi.
Ouais.
Sur son gars, et tu te dis waouh, c'est vraiment un album du love quoi. Et après j'ai bien aimé Nirvana, je trouvais ça intéressant. Enfin, on en discutait avec une amie qui est musulmane, que dans le refrain elles disent Mashallah. On trouvait que c'était assez politique en fait, vu comme la langue arabe et en particulier tout ce qui est en rapport avec la religion musulmane. Alors moi je suis pas musulmane hein. Mais vu comme elle est diabolisée et criminalisée dans l'espace public, on trouvait ça assez politique qu'elle l'utilise de façon aussi légère comme on l'utilise comme les gens l'utilisent dans le langage courant et dans une chanson pop qui sera écoutée par des tas de gens. On trouvait ça vraiment assez intéressant et politique. Et puis bon, j'aimais bien la chanson. Et la surprise de l'album, c'est un peu la dernière piste préférée avec Oh Boy. Alors Oh Boy, j'écoutais déjà, c'est un artiste d'origine malgache que j'aimais beaucoup.
Non.
Ouais, Capri Sun. Ouais, et Rien à fêter aussi. Et il avait fait aussi un feat avec Aya. J'ai oublié le titre. Enfin bref, il avait déjà fait un feat avec Aya, et là, une chanson qui parle ouvertement de sexe. C'est assez, enfin, une femme noire qui a autant d'influence dans la diaspora, enfin dans toutes les diasporas afro, qui parle ouvertement de sexe avec un homme de la diaspora malgache. Je trouvais ça fort et puis bon, l'ambiance bien aussi la chanson. Voilà, en gros, pour un peu balayer l'album comme ça de tête.
C'est très intéressant, mais du coup, tu as parlé de points négatifs. Est-ce que on ne demanderait pas à Sarah d'abord ses points positifs, puis ses points négatifs, et ensuite on revient à toi pour demander tes points négatifs.
Ah, sur des points négatifs, je sais pas trop. J'avoue que j'ai été assez emportée par cet album assez rapidement. Avec une petite préférence aussi pour préférer le titre avec Oh Boy. Il m'a vraiment plu. je trouve que c'est assez cool d'avoir une chanson qui parle de sexe comme ça, qui a de manière même un petit peu crue des fois, et elle qui évoque son désir, ce qu'elle aime, voilà, et c'est une chanson qui est hyper catchy, quoi, qui est entraînante, et elle m'a beaucoup plu. Ce que j'ai aimé aussi dans cet album, c'est la manière dont elle parle du couple et du sentiment, enfin, ouais, elle s'engage, elle parle d'elle, c'est assez intime et du coup, c'est entraînant, je trouve, c'est prenant pour le public. Voilà.
D'accord. Donc, pas de point négatif. Les gens qui
écoutent, pas trop.
Les gens qui écoutent Ayana Kamura n'ont pas de point négatif du coup. Est-ce que toi, Missa, t'en as du coup, tu nous as parlé de quelques points d'ombre?
Bah, c'est pas vraiment des points négatifs. Dans un album, c'est assez rare que j'aime toutes les musiques à 100%. Après, j'ai pas accroché le feat avec Stormzy.
Avec Stormzy, ouais. Ouais,
j'ai pas accroché. Du tout.
Ouais, il est pas très présent dans cette chanson en plus. Ouais, il est pas.
Ouais, puis je sais pas, j'ai pas accroché. Après, bon, bah, j'ai pas réécouté vu que j'ai pas trop accroché. Enfin, j'ai dû l'écouter deux fois, puis bon, ça me plaisait pas. Donc voilà, je passe à autre chose. Après, j'ai pas de gros voilà. Mais même, tu vois, il y a des petites chansons là que je trouve un petit peu sous-côté, genre Machine. Mmh. je l'aimais vraiment bien. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est toujours qu'elle intègre un peu du parler de de l'Afrique de l'Ouest en général. Je trouve ça chouette et en fait je voulais aussi souligner quelque chose que vous avez pas trop dit tout à l'heure, il me semble. Mm-hmm. Parmi les choses racistes qu'elle subit, souvent on entend dire que on comprend rien à ce qu'elle dit.
Ouais.
Et en dehors du fait que bon, il y a sûrement des personnes plus âgées qui écoutent et qui comprennent pas le parler jeune, on va dire en général. Bah, il y a aussi des moments où on dit ouais, elle sait pas parler français, etc. Alors qu'en fait, elle utilise tout simplement des expressions francophones de l'Afrique francophone qui sont pas forcément connues du grand public. Donc, je pense par exemple à quand elle dit dans quelle chanson elle dit j'ai vu dans ça, tu vois. Genre, c'est une expression ivoirienne. Et puis là, sur Doudou aussi, il y a eu un petit peu des réactions. Il se moquait d'elle. Alors que Doudou, voilà, c'est un surnom affectif pour dire chéri, mon chéri, surtout aux Antilles. Et en plus, petit moment autopromo. Donc, je suis en train de créer un podcast qui s'appelle La couleur de l'art et qui va parler de la race dans l'art. Et avec l'invitée que je vais avoir pour mon premier épisode, elle m'a parlé en fait du doudouisme, quelque chose que je connaissais pas. Et en fait, en gros, c'est le cliché en fait de l'antillais ou de l'antillaise, voilà, de la maman antillaise ou du tonton antillais qui est feignant. Enfin voilà, ce genre, c'est vraiment le cliché de l'antillais. Et du coup, en sachant ce cliché du doudouisme, j'ai réécouté Doudou et je me suis dit en fait c'est pareil que ce que je disais tout à l'heure par rapport à Machala. C'est assez puissant que elle prenne des choses qui puissent être des stéréotypes de base et qu'elle en fait quelque chose de positif en fait et qui est écouté internationalement. Et je trouve ça assez ouf. Et à côté, t'as des gens du coup qui la critiquent parce que soi-disant on comprend rien à ce qu'elle dit. Ou t'as des il y a eu une petite polémique avec Omar Sy qui a repris son personnage de Doudou, justement, qui s'appelle Doudou, qui jouait dans le SAV des émissions, et qui a fait une parodie, je pense pas forcément avec une mauvaise intention à la base, de Doudou Daya, sauf que voilà, il met un foulard sur la tête, il met une djellaba, il prend un accent, et il chante Doudou avec un accent hyper prononcé, et donc là, en fait, lui, il réactive un peu, justement, ce cliché, quoi, du doudouisme, et donc, je trouvais ça aussi intéressant que finalement on peut se dire c'est juste une artiste pop à la mode, peut-être que ça va passer, mais finalement, dans ses choix, je trouve qu'elle est assez politique, même si elle s'en revendique pas forcément.
Bah c'est pour ça aussi qu'on l'admire, c'est par ces choix là, je pense. Ce soir, nous sommes toujours sur Radio Pirate et comme je l'ai précisé, c'est une libre antenne. Donc, nous allons introduire pour la première fois un de vous, auditeurs et auditrices. Je vais dès à présent dire bienvenue à Dodd007 qui est aussi présent sur le Twitch. J'espère qu'il a coupé son son et qu'il est le son du live et qu'il peut à présent nous donner son avis personnel sur, sur Aya, sur l'album d'Aya. Et s'il peut se présenter aussi d'abord, ce serait agréable. Donc, bienvenue à toi, Don. Don n'était pas préparé pour...
Et toi, du coup, Ellie, t'as des, peut-être des points négatifs à dire sur l'album en attendant que Don s'en sorte?
Du coup, des points négatifs, je pense que un des trucs qui m'avait au début repoussé, c'est que j'avais pas l'impression d'être le public cible en mode je suis pas hétéro. Et du coup, je me sentais pas concerné particulièrement par cette vibe un peu éthérée de Aya qui est à fond sur son gars. Mais en réécoutant, en fait, j'ai l'impression que j'ai juste été de mauvaise foi et que c'est un peu irrespectueux de ma part de juste essayer de vouloir ne pas écouter Aya ou ne pas aimer Aya juste pour cette raison. C'est un peu de la mauvaise foi, sachant que finalement son public cible, c'est plus les jeunes, ceux qui parlent un peu comme elle parle. Et les productions sont vraiment pas, elles ont vraiment rien à envier, par exemple au rap qui ont des productions très très, très conséquentes et qui justement font pas mal de vibes. Hein. C'est pas anodin qu'elle fasse un feat avec O'Boy, qu'elle fasse un feat avec Stormzy, qui sont plus des rappeurs. Et du coup, je trouvais que ces prods là, en fait, en les réécoutant, les écoutant de plus en plus, j'ai l'impression que genre ça se rapprochait énormément de la trap. Ça sera et même aussi dans le flow qu'elle essaie de trouver, des fois ça kick un peu, et quand je dis ça kick, c'est à dire qu'elle est pour expliquer aux vieux qui nous écoutent, aux boomers, dédicace aux boomers qui nous écoutent, c'est dire des phrases dans les temps avec par exemple les P et les T, les dire dans les temps pour les accentuer. Et j'avais l'impression qu'elle faisait aussi pas mal ça sur le feat avec Stormzy, pardon, Plus Jamais. Et j'avais pas mal aimé du coup cet aspect-là. Et du coup, Dodd nous dit qu'il ne connaît pas très bien Aya Nakamura, mais qu'il voulait quand même être présent. Mais c'est pas grave, Dodd, si tu ne connais pas très bien Aya Nakamura, tu es quand même le bienvenu ou la bienvenue pour nous donner ton avis, en fait. On est là pour donner un avis. C'est pas grave si ton avis n'est pas très construit. On est là sur Radio Pirate, c'est une libre antenne, donc tu peux donner ton avis.
Au fait, j'ai retrouvé le son que je disais qu'elle avait fait en feat avec O'Boy et Dope Boy. Oui. Ça s'appelle Je m'en tape. Et d'ailleurs, le passage de Dope Boy, il est trop, 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 trop bien.
Il y a aussi
Dope Boy, pardon, excuse-moi.
Il y a aussi YouTube qui nous a répondu par rapport à Doudou, je m'excuse de ce retard, mais qui nous conseille la Doudou contre-attaque de Jacqueline Couty, quand tu parlais de doudouisme.
Ah, trop bien, je note ça, je vais le lire alors.
Merci à Izzy, du coup. Donc, Dodd n'a pas l'air très très chaud ce soir, donc je vous propose une courte pause musicale et nous retrouver juste après. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer un message privé ou un chuchotement, qu'on appelle ça, en cliquant sur moi, Medukuna, sur Twitch, et me demander l'adresse du Discord pour pouvoir donner votre avis. Donc nous allons nous retrouver après cette courte pause musicale à une analyse directe de l'œuvre et du texte chez Aya Nakamura. Donc nous allons prendre quelques punchlines, comme je l'avais déjà expliqué, je vais vous le réexpliquer tout à l'heure, et on va analyser tout ça. Donc si vous êtes là pour donner votre avis, c'est... vous êtes les bienvenus. À tout de suite. Nous revoilà, Moussaillon et Moussaillon. Nous sommes un petit peu en déperdition. Nous manquons de volontaires pour cette libre antenne, mais c'est pas grave. Je voulais faire une petite dédicace aux rageux sur Twitter parce qu'il y a eu des réactions sur les tweets qui en a d'habitude aucune. Et ça nous a interpellé en fait, l'équipe de Radio Pirate, qu'il y ait une réaction justement quand on parle d'Aya Nakamura, ce qui est un petit peu bizarre. Alors que Medine, on n'en avait pas eu, vu qu'on avait parlé aussi de musique la semaine dernière. Donc voilà, on arrive dans la troisième partie. Et dans cette troisième partie, on va se concentrer du coup sur l'œuvre directement, donc sur le texte. On a dégagé quelques petites petite parties et on va parler d'amour. Parce que oui, c'est clairement un album qui parle d'amour. On a discuté juste avant. Donc Aya, elle est amoureuse. Elle nous dit clairement. Donc on voit plusieurs étapes pour moi. Enfin, je les ai découpées comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez nous le dire. Donc on va commencer par la séduction chez Aya Nakamura. Donc j'ai pris la première phrase de l'album. Je t'ai donné mon cœur et je le referai plus jamais. Donc pour moi, je vais évidemment faire la même chose que j'ai fait pour Medine, je vais dire les figures de style que j'ai identifiées, puisqu'il n'y a pas de raison, il y a aussi beaucoup de figures de style chez Aya Nakamura, c'est très riche, c'est juste que vous êtes de mauvaise foi si vous dites qu'il n'y en a pas. Donc je t'ai donné mon cœur et je ne le referai plus jamais, pour moi c'était un euphémisme et une antithèse, donc je m'explique, elle parle d'amour ici, elle fera l'erreur de ne plus tomber amoureuse. Donc je dis que c'est un euphémisme, parce que donner mon cœur, vous dites que c'est pas un euphémisme, mais dans l'album, en fait, elle va beaucoup plus loin enfin que cette figure de style, donner mon cœur. Elle va aller beaucoup plus loin, comme on va vous le dire. Et pour moi, du coup, c'est un euphémisme et une antithèse, parce que du coup, elle parle d'amour, et en disant aussi qu'elle ne refera plus cette erreur. Enfin, elle sous-entend que c'est une erreur. Donc ensuite, la seconde phrase que j'ai prise pour parler de séduction, c'est faut pas forcer quand je te dis que c'est mort. Donc pour moi, j'ai pas relevé plus de figures de style, à part que c'est pour moi un axiome ou une parabole qui est adressée à un public plus jeune. Donc ça rentre dans une tradition du R&B, de la musique blues, qui pour moi est de l'éducation, en fait, de l'éducation populaire. C'est pour éduquer et apprendre le consentement. Bon, on va dire aux jeunes filles, mais c'est surtout aux jeunes garçons, en fait. C'est surtout aux jeunes garçons qu'il faut apprendre le consentement, comme on le sait dans cette société-là. Ce ne devrait pas être les filles, en fait, sur lesquelles on se concentre pour apprendre le consentement. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'elle dit cette phrase et qu'elle est déjà assez, elle est assez âgée. Enfin, elle a déjà 24 ans, si je ne me trompe pas, 25 ans cette année, ou elle a eu 25 ans cette année. Corrigez-moi si je me trompe, évidemment.
Non, je crois que c'est ça.
Elle a 25 ans cette année. Bah, du coup, elle a 25 ans cette année. Elle tombe encore sur des mecs qui ne savent pas ce que c'est le consentement. Elle éduque en même temps les gens qui sont de sa génération, donc qui ont 25 ans, et en même temps elle écoute son public qui est beaucoup plus jeune. Donc ensuite j'ai pris la légendaire punchline qui nous a fait danser tout l'été. Jolie nana recherche joli Joe, comment on fait, je suis pas très mytho, moi j'ai le truc, je sens les pipeaux. Donc là on peut voir une magnifique assonance en haut, et pour la suite de l'analyse de cette phrase, je vais laisser ma place à Dodd, s'il veut bien nous dire qu'est-ce qu'il en pense de Jolie Nana à Recherche Jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho, mais moi j'ai le truc, je sens les pipeaux.
Allô, vous m'entendez?
On t'entend, Dodd.
Ah, ok, bon, bonjour. Bonsoir.
T'as bien vu?
Ouais, bienvenue, ouais, ça fait un moment que j'écoute Radio Pirate, donc je finis par un peu connaître les gens, mais... C'est la première fois que je suis en direct sur une radio, donc
voilà. Donc, une première fois à tout.
C'est l'expérience radio pirate.
Je suis bien plus âgé qu'avec le monde, comme quoi. Okay. Moi, j'avais écouté Yana Nakamura la première fois, je crois que j'ai entendu un extrait dans le podcast Parler comme jamais de Lélia Véron. Okay. Je trouvais ça, ouais. Alors après, moi, j'écoute pas trop ce genre de musique R&B. Donc, je connais pas très bien. Par contre, oui, c'est vrai que stylistiquement, il y a du style. Hein, chez Yana Nakamura. Vous voyez, ouais, j'avais les plus âgés en plus. Yana Nakamura, je savais pas du tout qu'elle était si jeune, 25 ans, j'avais les plus âgés. Donc, ouais, c'est particulier. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de construction médiatique autour d'elle qui est un peu étrange. Et c'est certain que on a une perception médiatique qui est peut-être un peu aussi, trompée. Également par peut-être la commercialisation, ce genre de phénomène un peu, voyez, publicitaire. Quoi. C'est vrai qu'on a tendance un peu à ranger les gens dans les catégories, ça c'est pas très bon signe, souvent. J'avoue que moi, je cherchais à en savoir plus sur cet artiste parce que je la connaissais pas bien. Je trouvais intéressant justement parce que je sentais bien qu'elle a pris plein de la job parce qu'elle était justement femme et de couleur. Et ben, je trouve votre émission intéressante. Elle remet un peu en perspective ce genre de. Ben, ce qu'elle est et ce qu'est son œuvre. Et justement, c'était pour en savoir un peu plus sur son œuvre hein, et qu'elle est comme artiste. Parce que j'avais sans doute un a priori un préjugé négatif, vous voyez.
On est là pour te donner envie, hein. On est là pour te donner envie, on est là pour donner envie à tous nos auditeurs et nos auditrices d'écouter Ayana Nakamura. Du coup, je voulais te demander ton avis, enfin, je rebondis sur ma question. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là ? Jolie nana, recherche, jolie Joe, comment on fait ? Je suis pas très mytho, moi je l'ai le truc, je sens les pipeaux.
C'est pas évident parce que c'est pas le genre de musique que j'écoute souvent.
Ah, mais après, tu peux
je trouve que c'est pas, je trouve que c'est pas mal. Enfin, en effet, il y a des assonances stylistiques. Ouais. C'est ce que tu as dit, c'est une assonance. En tant que fan, moi, je le trouve pas mal. Après, bon, c'est.
Bah, déjà, si t'apprécies, c'est déjà bien. C'est déjà bien.
Non, mais oui, comme quoi, c'est beaucoup plus recherché qu'on le dit. C'est souvent ce genre de choses. Dans les musiques populaires, on a souvent tendance à. Elle est classée comme sous-genre, sous-musique, etc. Donc, au fond, il y a beaucoup plus qu'on le dit. C'est bon. Intéressant.
On a l'occasion d'en reparler tout à l'heure, donc on va passer du coup à une autre partie, puisque dans Aya, elle ne va pas que parler de séduction dans son album, on continue l'analyse. Elle parle aussi de couple, donc Sarah nous a préparé cette partie-là. Donc, Sarah, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle entend par le couple ? Comment est-ce qu'elle le définit ? Est-ce qu'elle le définit déjà ?
Oui, alors, je vais dire comment moi je l'ai vu. Hein, je n'ai pas la prétention de dire que c'était ses intentions. En tout cas, moi, ce que je vois dans la manière dont elle parle du couple, c'est que elle va mettre en avant le sentiment amoureux comme un truc assez romantique. Voilà, il y a un côté, par exemple, dans Sentiment grandissant, elle parle de l'amour comme d'un papillon qui s'envole gracieusement. Et je trouvais cette image assez jolie, un petit peu avec un petit côté naïf, mais du coup, voilà, qui donne cette idée de romantisme. Mais en même temps, j'ai l'impression que le couple chez Aya, c'est un lieu où elle s'épanouit et aussi un lieu où elle s'affirme et où elle revendique son indépendance. Et pour illustrer ça, j'ai relevé dans deux chansons. D'abord, dans Love de moi, elle dit « Si tu veux de moi, faut te décider. T'as beau tout faire, mais je t'ai eu, tu vas tout perdre, je t'ai eu. » Et là aussi, on a une figure de style d'ailleurs qui s'appelle une épiphore. C'est le fait de répéter les mêmes mots en fin de phrase plusieurs fois. C'est une figure qu'elle utilise sur plusieurs chansons et qui fonctionne bien dans la musicalité que ça donne à la chanson. Et du coup, aussi sur le fond, il y a une idée de position de force dans le couple où en fait, elle n'est pas en admiration devant son homme, en gros. Elle est consciente de sa force et aussi de l'espèce de pouvoir qu'elle a sur lui, en quelque sorte. Et je trouvais ça intéressant. C'est également présent dans Bif, la chanson de Bif, où elle dit, par exemple, « Depuis le début, je me débrouille toute seule. Ce que j'ai, je l'ai gagné toute seule. Je ne suis pas dans le moule. » Et après, elle enchaîne en disant il croit être dans ma trajectoire. Oh, il échoue, faut assumer. Tu parles trop dans ma tête, c'est mort. Pourquoi t'écoutes pas quand je parle ? Et quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois, je me suis dit que ici on trouvait un thème qui était en fait assez présent dans le R&B, notamment américain des années 90, début 2000, où les filles elles parlent d'amour. Et en même temps, donc dans un côté voilà couple, romance, tout ça, mais en même temps dans une revendication d'indépendance. Donc elles affichent leur exigence par rapport aux garçons qu'elles vont laisser entrer dans leur vie. En gros, elles connaissent leurs valeurs entre guillemets et elles veulent des mecs à la hauteur en fait. Et je trouve ça assez assez chouette et intéressant. Et du coup, bah, par exemple, dans le R&B américain, il y a des titres comme No Scrubs de TLC, Like a Boy de Ciara ou Bills des Destiny's Child qui est sorti en 99. Et voilà, c'est des chansons où les femmes, elles s'affirment, elles veulent pas céder sur leurs exigences, elles veulent des mecs qui leur plaisent et surtout qui font des efforts, en fait, pour correspondre à leurs attentes. Et voilà, ça, je trouve que c'est un aspect intéressant de la manière dont Aya parle du couple dans cet album. Missa, tu voulais rebondir aussi sur cette question ?
Oui, pardon, je voulais juste signaler que Sentiment grandissant, c'est une reprise d'un titre de Karima. Alors, je le connais pas bien ce titre, mais ça me fait penser que c'est pas la première fois que Aya fait une reprise dans son album, puisqu'elle avait déjà fait la reprise de Pom Pom. Enfin, Pom Pom, c'était une reprise aussi. Et donc, en fait, à chaque fois, enfin, pour moi, c'est un petit peu un hommage justement aux musiques, enfin, et au hip-hop des années 2000. Et je trouvais ça cool de le dire.
Ok, bah, je savais pas en plus. Ouais, quand même.
Du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire encore sur ces paroles que Sarah vient de dénoncer, Missa ou Dodd? C'était « Si tu veux de moi, il faut décider. T'as beau tout faire, mais je t'ai eu. Tu vas tout perdre, je t'ai eu. »
J'avoue pas, enfin, j'y ai pas... J'ai pas trop réfléchi parce qu'en plus, en fait, j'étais en train de vérifier le nom de l'artiste qu'elle a repris entre temps. Du coup, j'ai pas trop suivi.
C'est l'aléa du direct. Donc, dans cette dernière partie, je pense qu'on va enchaîner sans pause musicale. On est là ce soir, toujours en radio, toujours en antenne libre, avec Dodd ici présent. Merci à toi d'être là, Dodd. On est là avec Missa qui nous a rejoint. Donc merci à toi Missa d'être là. On est avec Sarah qui m'a aidé à animer et on est avec Rogwan à la technique. Donc on va enchaîner. J'allais vous parler d'une dernière partie qui s'appelait critique sociale, analyse sociale. Mais en fait en cherchant un petit peu, je suis tombé sur des trucs qui m'ont vraiment déçu de la part des médias français. Donc j'ai fait une recherche le 1er décembre 2020 et j'ai regardé les articles dans Actualité sur qui avait pour occurrence Aya Nakamura. Donc le premier article que j'ai trouvé, c'était France Inter qui disait « Passer Aya Nakamura au PNL, c'est aussi notre rôle ». Donc c'était sur la playlist de France Inter. Le deuxième, c'était « Il est comment le dernier Aya Nakamura de Jeune Afrique ?» qui se permettait une petite critique un petit peu gratuite. Je pense que personne ne se permettrait cette critique si ça avait été quelqu'un d'autre qu'Aya Nakamura. Ensuite, on avait Télérama qui disait que Jules et Aya Nakamura, ils étaient élus meilleurs artistes aux Deezer Awards 2020. Donc là, c'était un petit peu calme le 1er décembre. Et puis, ce qui était étonnant, c'est que là, le 11, j'ai refait une recherche le 11, je retrouvais un drama. Et le drama, c'était Aya Nakamura, ingérable, nouvelles accusations peu fatales sur la chanteuse de Closer. Aya Nakamura, Cash ou Diva de Paris Match, Rof réagit au clash Aya Nakamura versus Matt Pokora, prend position et met en garde. Donc là, c'était de 13 hors du hip-hop. Et en dernier, Aya Nakamura, trop capricieuse, son entourage n'arrive plus à la gérer de voici. Donc ça m'a pas mal atterré. Donc j'avais envie de vous faire part de ça, cher pirate, parce que c'est pas pour faire semblant. Quand on parle d'oppression, il y a quelque chose de très matériel derrière, qui est cet acharnement médiatique sur Aya Nakamura sans qu'elle ait fait quoi que ce soit finalement, puisque on vous a présenté un petit peu son parcours médiatique et son accueil, et du coup ben c'est ça en fait son accueil médiatique. Et on a aussi, j'ai encore en plus, je vous ai épargné le moment où elle était où il y a eu des débats sur son couple parce que son producteur l'a trompée, où ça aussi ça a fait bien tous les unes des journaux avec bien du mépris pendant une semaine. Et c'était bien tout ça. Donc la dernière punchline en fait que j'ai prise pour illustrer comment Aya Nakamura réagit face à ça et face à la misogynie noire, ou même face aux médias plus généralement, c'était je suis égoïste, question de survie. Si je n'insulte pas, dis-moi qui le sera. Donc chop. Donc en fait cette punchline là, c'est assez intéressant puisque dans le dernier mot c'est sera. Et il renvoie pas comme il renvoie habituellement au dernier verbe, donc insulter. Il renvoie plutôt en fait à égoïste. Donc elle dit si personne est égoïste, enfin si elle se préserve pas, qui va la préserver finalement? Et on voit bien en fait à travers tous ces médias que si elle se préserve pas elle-même, il y a personne qui pourra la préserver. Donc je voulais aussi mettre un petit peu en perspective avec une autre artiste qui a un petit peu percé cet été. C'était Weshden, peut-être que vous en avez entendu parler si vous êtes à l'actualité du rap et de la musique française. Weshden, c'est une jeune femme qui a fait un son qui s'appelle Anissa où elle racontait s'être fait tromper par son ex. Et elle a fait 80 millions de vues sur YouTube et 36 millions d'écoutes sur Spotify. Et elle aussi, elle a eu un sacré tollé médiatique, malheureusement. Donc voilà, je voulais vous mettre ça en avant. Je pense que on peut encore un petit peu discuter sur, enfin peut-être ajouter quelques points sur la critique sociale et l'analyse sociale que Keneko Amura pose dans cet album.
Moi, je voulais juste réagir. J'écoute pas trop Weshden, mais les quelques morceaux que j'ai entendus, je trouve ça trop cool qu'elle invente des. Enfin, en fait, les gens ils critiquent encore son français. Et tout, ouais, mais je trouve ça trop cool qu'elle invente des expressions genre tu hors de ma vue, ça claque de ouf, tu hors de ma vue, tu vois, tu sais pas, tu mets-toi hors de ma vue ou je sais pas quoi, non, tu hors de ma vue, c'est bon, ça claque, c'est carré comme expression, et ça va rentrer dans la langue française, c'est nickel ça, tu hors de ma vue.
Mais voilà. Comportement bah ouais de Aya.
Ah, et comportement, oui, après je crois que c'est un petit peu aussi. C'est un petit peu une expression utilisée par la diaspora afro, enfin toutes les diasporas afro. Et après sur ce que tu as dit, après bon bah sur son aura médiatique et tout ce qui, alors déjà personne l'a laissé respirer, c'est un truc de ouf. Genre bon, on peut dire que c'est le retour de bâton de sa grande notoriété internationale, mais c'est marrant parce que quand certains pays ont des stars internationales, ils ont plutôt tendance à les mettre en avant parce que j'ai rien que pour les thunes en fait. Et puis en France, au contraire, on a tendance à complètement casser Aya et pas la laisser respirer, aller de polémique en polémique, en dehors des scoop closer sur les tromperies, etc. Pardon, j'étais en train de lire le chat en même temps, ça m'a perturbé. Il y a des trucs, en fait, je trouve ça intéressant que Aya, elle a l'air assez, un peu impulsive, enfin, pas impulsive, mais voilà, elle va dire les choses telles qu'elle les pense, sur le coup. J'ai pas l'impression qu'elle a de community manager, donc elle tweet comme vous et moi, on tweeterait ce qu'on pense. Après, elle a tendance à supprimer ses tweets. Et sur Matt Pokora, justement, elle avait tweeté son étonnement qui gagne encore. C'était quoi, le Energy Music Awards, c'est ça?
Oui, tout ça, c'était les Energy Music Awards où lui, il a gagné. Et elle avait tweeté, il a gagné pour quel son. Rien contre lui, mais il n'est même pas dans le top 10.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Après, je comprends que Matt Pokora, il se défende, entre guillemets, en plus sur le plateau de Touche pas à mon poste là, c'est fait exprès pour créer la polémique et machin et tout, mais c'est vrai que les gens ils l'ont traité de jalouse et tout alors qu'elle pointe juste un truc intéressant, c'est que Matt Pokora, je crois, il en a gagné énormément.
Ouais, en fait c'est ça, c'est qu'il gagne beaucoup et derrière il y a eu d'autres réactions, il y a eu Matt Houston et d'autres personnes de l'univers musical qui ont réagi aussi en disant qu'en fait, eux aussi, ils trouvaient que c'était pas très cohérent, cette victoire. Et elle, en fait, dès qu'elle a fait ce tweet, derrière, ça a été des réactions en chaîne hyper rapides où on n'a pas vraiment écouté sur le fond, en fait, quelle était la question. Mais direct, c'était elle est ingérable, elle a atomisé Matt Pokora, elle est en rage, elle est, tu vois. Pour discréditer un petit peu ce qu'elle disait, alors qu'en fait, c'est une interrogation qui peut s'entendre, quoi.
Carrément, et puis il y a un truc que je voudrais appuyer, c'est que souvent, les termes qui reviennent, c'est des termes assez condescendants et sexistes, tu vois. Genre, elle est capricieuse, tu vois. Genre, le caprice, c'est un truc de gosse, tu vois. Enfin, et encore, voilà, enfin, c'est vraiment un truc infantilisant à donf, quoi.
C'est hyper infantilisant. Moi, ce qui m'avait frappé aussi, c'était comment les médias ont parlé de la réponse de Matt Pokora sur ce point, parce que du coup, lui, il lui a répondu sur le plateau, comme tu disais là. Et derrière, les articles titrés qui recadrent Aya Nakamura, qui la remet à sa place carrément, tu vois. Donc, comme si elle pouvait, elle avait pas juste voix au chapitre au même titre que lui, en fait.
Oui, en plus, franchement, enfin, moi, je l'ai pas, enfin, de mon souvenir. Enfin, il est pas hyper violent envers elle, c'est juste un petit peu monté en, comment dire, c'est un petit peu monté en épingle, cette histoire.
Oui, clairement, oui. Ouais.
Je reviens du coup à Dodd, si tu es encore là, Dodd. Est-ce que tu es encore là, Dodd? Parce que évidemment, nous sommes une libre antenne ce soir, donc Dodd.
Je suis encore là.
Est-ce que toi, Dodd, tu as entendu parler d'Ayaka Nakamura dans les médias?
Oui, rapidement. Je suis passé sur une interview chez Combini et en effet, j'ai un peu entendu des rumeurs, notamment celle avec Quotidien où ça s'était mal passé, mais je n'ai pas plus suivi que ça. Quoi.
D'où t'en as entendu parler autant en bien qu'en mal ou plutôt en mal?
Bah plutôt en mal, c'est ça le souci. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout au sujet, comme moi, j'en ai entendu plutôt parler en mal. Après, moi je pense aussi qu'il y a une construction, enfin une volonté médiatique d'en parler en mal. Clairement. Mais bon, je ne pourrais pas me prononcer, mais oui, j'en ai entendu parler en mal. Et sur des Quotidien, à cause du Quotidien notamment.
Okay.
Je pense d'après que c'est une volonté de nuire, de toute façon. Et puis là, tout ce que j'ai vu passer, là, la presse people, mais ça existe depuis longtemps, ce genre de truc. Pour dénigrer les artistes féminins, ça existe depuis des années. Mais c'est vrai qu'ils sont rapides quand même. Hein. Ils sont rapides et méchants. Mais bon, c'est comme ça. Hein.
Ouais, c'est comme ça, mais nous, on essaie d'un petit peu de changer la donne.
Ouais, c'est vrai que c'est le principe de la presse people. Après, le truc avec Aya, c'est que on en parle même en dehors de la presse people. En fait, il y a des articles genre, enfin, on peut pas dire que Paris Match. Enfin, je crois que j'ai même vu des articles du Point ou du Monde, peut-être même du Figaro. Enfin, c'est quand même vachement repris dans la presse, on va dire mainstream aussi, quoi. Mais parce que elle a un retentissement international aussi. Mais finalement, on n'entend pas beaucoup parler de son retentissement international. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'on a entendu parler des critiques qu'il y a eu à l'international ou je sais pas des audiences de son public. Où est-ce qu'elle fait de l'audience? Dans quelle, enfin, on se doute que c'est en partie en Afrique de l'Ouest. Mais voilà, dans quel pays, à quelle hauteur. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'on n'entend pas du tout parler, quoi.
À ce propos-là, je me permets de rebondir parce qu'on a déjà, on en a déjà parlé sur Radio Pirate, on en a parlé il y a deux semaines, dans l'émission sur Made In, on en a parlé et on a dit que pour Made In, qui est dans le même cas qu'Aya, mais moins grand, Made In, en fait, il a eu un documentaire à son effigie qui s'appelle Made In Normandie. Si je ne me trompe pas. Et dans ce documentaire, il y a une journaliste qui est interrogée qui dit que si Made In, il était américain, ce serait un modèle, en fait, il serait mis en avant par tous les médias, comme quoi ce serait une success story, un self-made man. Et en fait, pour Ayana Nakamura, on peut en revenir à la même conclusion. Si elle était américaine, elle serait mise en avant, et elle serait mise en avant comme une self-made woman, comme une success story incroyable, parce qu'elle a tracé son chemin elle-même, elle doit rien à personne, et ça fait beaucoup de bruit. Et regardez ce documentaire pour en réfléchir un peu plus, mais il y a de nombreux liens qui peuvent être tissés entre le parcours de ces deux artistes, bien que Aya a un parcours un peu plus récent que Made In. Mais pour cette comparaison entre une femme et un homme, mais je pense qu'elle valait le coup d'être soulevée. Donc aussi, pour revenir à nos réflexions, c'est que on est arrivé aussi à une conclusion, enfin c'est surtout Sarah qui l'a mis en avant, c'est que Aya Nakamura en France, elle est pas mal une référence pour un certain bord politique qui est l'extrême droite. Elle est une référence en fait pour parler des dérives de l'industrie musicale et du marketing. On la décrit comme quelque chose de commercial qui sait pas parler français, qui est dirigé pour un public de filles et qui est du coup vraiment nul. Mais Aya Nakamura, c'est pas seulement ça. On l'a prouvé tout au long de cette émission. On l'a prouvé avec Lisa qui nous a donné beaucoup d'éléments. On l'a prouvé nous-mêmes en analysant quelques courts punchlines. Donc j'espère que nos auditeurs auront envie d'écouter Aya Nakamura si c'est pas déjà fait. J'espère que toi, Dodd, t'auras envie d'écouter Aya Nakamura. Nous, on l'a déjà fait et on n'arrêtera pas de l'écouter. Donc, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter?
Je vais tenter.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter puisqu'il serait quand même temps de conclure maintenant, je pense?
Ouais, peut-être sur ce que tu as dit en dernier.
Je disais que Aya Nakamura elle est dénigrée, elle est utilisée, elle est instrumentalisée par l'extrême droite pour dire qu'on ne sait plus parler français, parce qu'elle est aussi son public apparemment de petite fille.
Ah oui, voilà, sur le public féminin, ça c'est quelque chose de, enfin qui a un peu toujours existé en fait. Tous les artistes et les groupes qui ont des publics majoritairement féminins sont toujours rabaissés en mode oui c'est bon, c'est un truc de groupie, donc enfin là peut-être on peut le voir avec notamment les, enfin moi j'écoute pas du tout hein, mais enfin c'est ce que je vois par exemple avec les artistes de K-pop. Ou même en son temps passé, enfin j'avais lu des critiques des Beatles en leur temps, ouais c'était un truc de groupie, alors que voilà, enfin voilà il y a toujours un rabaissement du fait du public, et en plus là c'est non seulement un public féminin mais aussi un public afro, et du coup je suppose un public de femmes noires afro-descendantes qui écoutent beaucoup Aya et qui se reconnaissent en elle, en dehors du fait qu'elle touche vraiment beaucoup de monde puisqu'elle est vraiment une artiste internationale, je le répète, mais voilà, il y a, enfin voilà, c'était surtout pour réagir à propos de la condescendance dont on fait preuve envers les artistes qui sont écoutés majoritairement par un public féminin.
Toi, Sarah, un mot de la fin?
Oui, je suis d'accord avec vous sur ça. Je pense que c'est une sorte d'élitisme, en fait, aussi. Non seulement elle est écoutée, on imagine, parce qu'en fait, je sais pas si on sait vraiment qui l'écoute. Je pense qu'il y a vraiment toutes sortes de gens qui écoutent Aya Nakamura. Mais on imagine que c'est de la musique pour filles, donc c'est un peu nul. Et elle est vachement décrite, je trouve, comme une espèce de produit commercial aussi, d'un produit marketing, et qu'elle aurait pas... Elle aurait pas, enfin, on lui reconnaît pas des vraies qualités musiciennes, en fait. Ça, c'est un truc qui revient souvent, en fait, quand je parle d'Aya Nakamura autour de moi, c'est que, voilà, c'est un pur produit de l'industrie musicale qui cartonne, mais qui a pas vraiment de qualité artistique plus que ça. Et voilà, ça, c'est aussi un truc que je trouve assez faux et assez rageant. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Non, je suis d'accord. Et je trouve ça dommage, puisque même si Aya était née 20 ans plus tôt, je pense qu'elle aurait fait quasiment la même chose, enfin, avec l'empreinte musicale de son époque, mais elle fait quelque chose avec l'empreinte musicale de notre époque, qui est un mélange de styles et qui est un mélange pas désagréable. On bouge bien dessus et ça dit des choses très intéressantes sur notre société. Mais je pense qu'elle exploite un petit peu, forcément, elle exploite un petit peu cette époque-là, mais. Je pense qu'Aya, elle restera encore là dans 20 ans, elle sera encore là, elle fera encore des tubes. Hein.
Oui, mais clairement, moi je pense qu'elle a capté un truc du moment, de l'époque. Et en fait, elle est assez. En France, on n'a pas beaucoup des comme elle, quoi. Donc je trouve qu'elle mériterait un peu plus de soutien, en fait. Clairement.
Et toi, Dodd, est-ce que tu as un mot de la fin?
Pas vraiment. Et merci pour vos analyses pertinentes, je trouve, sur une artiste qui, à mon avis, a été dénigrée, enfin, même certainement dénigrée. Moi, ce qui m'a le plus choqué, finalement, c'est pas le titre de Closer, mais je trouvais que c'est le pire, finalement, c'est celui de France. Hein. Je fais écouter à des Julie et Nana Camoran, on est obligé de les passer parce que voilà. Voilà, quoi. Ça, je crois que c'est le pire de tous, finalement, au fond.
D'accord.
Celui qui a le côté le plus élitiste. Mais...
Oui, c'est ça,
c'est de presse. Parce que les autres, on sait ce qu'ils vendent. Quoi. Les France Inter, ouais, ils se la pètent. Hein. C'est pas France Culture non plus, il faut qu'ils se calment. Bon, merci pour vos analyses, c'était très, très intéressant. Je mourrai moi-même ce soir.
Ben, merci à toi, écoute, de nous avoir rejoints. Donc, nous allons nous dire à présent au revoir. Je tiens à remercier du coup encore une fois Dodd d'être présent. Je tiens à remercier Missa de nous avoir rejoints un petit peu à la dernière minute. Je remercie évidemment Sarah qui avec laquelle j'ai coécrit cette émission, et je remercie évidemment et très fortement Rogue One, qui est notre technique de ce soir et qui a eu beaucoup de difficultés à s'adapter et qu'on comprend vraiment, qu'on comprend et qu'on a beaucoup d'empathie pour lui. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est grâce à vous, les pirates, que nous sommes là. Donc, vous pouvez nous retrouver demain, évidemment, à 21h, avec une émission sur la repentance coloniale que je crois que Missa va participer.
Non, ça sera avec Edoui et Dave Sheikh de la chaîne Histoire Brève. Enfin, moi, j'ai pas vraiment participé. C'est eux deux qui ont écrit et tout. Moi, j'avais juste proposé le thème et je serai là pour la modération. Mais du coup, c'est Edoui et Dave de la chaîne Histoire Brève. Et ça va être super intéressant. Donc, je vous invite à venir les écouter demain à 21h.
Bah, c'est sur ces mots que nous nous quittons. Merci à toi, Missa. Et merci encore une fois à la technique. Et merci aux pirates. Au revoir à vous.
Ciao, la compagnie. Ciao.